cours d'économie.
Au sommaire, journée porte ouverte à l'intention de la presse ce mercredi au bureau de la Banque mondiale ici à Kinshasa. Cette institution a voulu par cette occasion présenter ses différents projets financiers en RDC et leur impact. À suivre également dans ce magazine économique la visite du Premier ministre Matata Ponyo au chantier de construction de l'aérogare modulaire en Djili. Travaux financés à hauteur de 21 millions de dollars américains sur fonds propres du gouvernement congolais exécuté par la firme française Alpha Airport. Nous dirons aussi un mot sur la spoliation du site de maraîchers de Kisenso qui approvisionne le marché de Kinshasa en légumes. Leur association se plaint et appelle à l'intervention des autorités du pays. La Banque mondiale s'est dit satisfaite de ses différents projets financiers en RDC. Une journée porte ouverte a été organisée ce mercredi à Kinshasa au bureau de représentation de cette institution de Bretton Woods pour présenter leur secteur d'intervention et les réalisations. Parmi ces projets, on peut noter deux qui sont liés au secteur de l'électricité en RDC financés à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains. Le superviseur de ce projet nous parle ici du marché de l'électricité à la consommation domestique et son impact surtout pour les Congolais. Écoutez Daniel Pembele.
Ce projet va permettre d'abord de réhabiliter les machines qui sont à l'arrêt à Inga, dans les centrales d'Inga 1 et Inga 2. Et puis, avec l'énergie qui proviendra de machines réhabilitées, donc on aura, disons, de l'énergie additionnelle. Cette quantité d'énergie, une partie de cette quantité pourra être évacuée pour Kinshasa. Vous savez que pour le moment, à Kinshasa, nous avons un déficit énergétique. Parce que la ligne existante entre Inga Kinshasa et Statuaire. Pour cela que, fallait nécessairement avoir une deuxième ligne entre Inga Kinshasa pour amener plus d'énergie. En plus de ça, dans le cadre toujours du projet de PM2, nous visons à l'électrification de certaines parties de la ville qui sont dans l'obscurité, qu'on qualifie de poche noire. Donc, il y a Kimbanseke. Là, nous sommes en train d'implanter un réseau. Les réseaux constitués de lignes, de cabines. Bon, alors il faut avoir une source. La source, ce sera le poste de Kimbanseke. Et il y a aussi Mpassa. Nous allons aussi alimenter Mpassa. Les travaux sont en cours. Malueka, parce que dans Malueka, on a ciblé, en tout cas, une poche noire. Le projet se clôture au mois de juin 2016, le projet PM2. Nous avons commencé le projet il y a quelques années, en 2008. Et donc, nous sommes très avancés dans l'exécution de ce projet.
Alors, Paul Matendo est avec nous pour nous faire découvrir réellement la Banque mondiale dans le zoom économique de ce soir.
La Banque mondiale a été créée principalement pour aider l'Europe et le Japon dans leur reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais elle s'est fixée un objectif supplémentaire, celui d'encourager la croissance économique des pays en voie de développement africain, asiatique et latino-américain. Elle a vu le jour le 27 décembre 1945 sous le nom de Banque internationale pour la reconstruction et le développement après signature de l'accord de Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944. Le 9 mai 1945, elle approuva son premier prêt qui fut accordé à la France pour un montant de 250 millions de dollars américains. Sachez que la Banque mondiale n'est pas une banque au sens habituel du terme. Elle se compose de deux institutions de développement unique dont le capital est détenu par 187 États membres. Alors, quelles sont ces institutions? Il s'agit de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de l'Association internationale de développement. Ces institutions ont chacune un rôle différent, mais travaillent en collaboration pour promouvoir la vision d'une mondialisation solidaire et durable. Son action est aujourd'hui principalement orientée vers les pays en voie de développement et en particulier les pays les moins avancés sur des axes comme l'éducation, l'agriculture, l'industrie, la santé. Elle accorde des prêts à des taux préférentiels à ces pays membres en difficulté. Elle réclame que des dispositions politiques soient prises pour, par exemple, limiter la corruption, maintenir un équilibre budgétaire ou faciliter l'émergence d'une démocratie. En plus des prêts accordés, elle finance également des projets de des ONG et conduit de nombreuses recherches en rapport avec le développement de chaque pays. En République démocratique du Congo, l'engagement de la Banque mondiale s'est situé à 313 millions de dollars américains pour l'année fiscale 2012.
Et puis parlons du lancement officiel depuis hier des travaux de réhabilitation de certains axes routiers urbains dans toute la province du Nord Kivu. C'est le ministre provincial de l'Intérieur qui a donné ce coup d'envoi à partir de la ville de Butembo. Selon le ministre, ces travaux qui seront financés par le gouvernement provincial pourront prendre au moins 2 ans. Le point avec Moïse Mutunga Lukube.
Selon le ministre provincial de l'Intérieur, ces travaux qui sont l'initiative du gouvernement provincial et qui concernent en premier lieu les villes de Butembo, Beni et Goma vont prendre 24 mois. Il s'agira de 20 km de routes urbaines qui seront bitumées dans ces 3 principales villes du Nord Kivu. Quant au coût des travaux, il est estimé à 13 millions de dollars américains. D'après les ministres de l'Intérieur, c'est une société sud-africaine appelée Remix qui a la charge d'effectuer ces travaux. Cette société, qui dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, travaillera néanmoins sous la supervision des ingénieurs locaux. Le ministre Valérien Mbalu-Tirandi souligne que ce projet permettra de créer de l'emploi, ce qui pourra diminuer un tant soit peu les taux de chômage dans la province du Nord Kivu. Selon lui, 200 à 500 personnes pourront avoir de l'emploi suite à ces projets du gouvernement provincial du Nord Kivu. Éco d'économie, Goma, Moïse Mutunga Lukube, Radio Kapi.
Je le disais également au sommaire, travaux de construction de nouvel aérogare international à l'aéroport de Ndjili. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est allé constater ce matin leur état d'avancement. Ces travaux dont le coût est évalué à 21 millions de dollars américains sur financement propre du gouvernement congolais sont exécutés par la firme française Alpha Airport. Ils seront finis au mois d'octobre prochain, promet la firme française Alpha. Innocent Olinga nous en dit plus.
La nouvelle aérogare international, pour ceux qui connaissent l'aéroport d'Ndjili, est en train d'être construite devant l'aérogare national dans l'espace qui servait des parkings. Son ossature métallique est totalement montée et on est à l'étape d'étolage. C'est un bâtiment démontable érigé sur une superficie de 10 000 m² avec une capacité de traitement de 1 million de passagers par an et qui pourra être utilisable ultérieurement sur un autre lieu lorsque l'aérogare définitif de Kinshasa sera en service. Selon les ministres des Transports et des Communications, Justin Lumba, qui accompagnait les premiers ministres, cet aérogare sera conforme à l'ensemble des standards internationaux.
Nous allons tenir les paris qui consistent à mettre cet aérogare en service à l'horizon 15 octobre. Nous pourrons avoir un service de qualité. L'ambition, c'est d'avoir cet aérogare totalement en norme en termes de confort, mais aussi en termes de sûreté.
Mais il faut dire que ces travaux devaient finir au mois d'avril dernier. Selon la première estimation lors de leur lancement le 27 juin 2013, ils ont donc connu un retard et c'est ce qu'a fait remarquer Augustin Matata Ponyo au responsable de la firme française Alpha Airport, à qui il a enjoint d'accélérer le rythme du travail.
Au Katanga, l'entreprise minière Tenke Fungurume poursuit ce mercredi sa campagne de récupération du crédit agricole dans les sites de Tenke. Pour rappel, en début de la saison culturelle 2013-2014, l'entreprise avait octroyé les intrants et des semences aux populations de ces différentes contrées. Selon les clauses, au moment de la récolte, chaque agriculteur devrait restituer à l'entreprise une quantité de sa récolte. Les populations bénéficiaires se disent satisfaites de cette opération. Elles ont émis le feu de voir l'opération se poursuivre même à la saison culturelle prochaine. Parlons du mouvement de grève des agents Gécamine Colosi, toujours au Katanga. L'intersyndicale de cette société appelle les agents au calme. Dans une déclaration hier à Radio Kapi, le président intérimaire de cette intersyndicale indique avoir été en pourparler avec l'employeur et assure que d'ici là, les agents vont toucher une partie de leur salaire. Cependant, il annonce que la Gécamine fait face actuellement à d'énormes difficultés.
Écho d'économie.
Pour terminer, prenons cette plainte de l'association des maraîchers de Kisenso ici à Kinshasa. Cette association a déclaré hier à Radio Kapi qu'elle n'est plus en mesure d'approvisionner les marchés de Kinshasa en légumes. Et pour cause, le site, dit-elle, est spolié depuis plus de 2 ans. Ces agents sollicitent l'intervention des autorités du pays pour délocaliser les unités de la police militaire qui occuperaient cet espace. Je vous propose d'écouter le représentant de maraîchers de Kisenso interrogé par Paul Matendo.
Nous avons été établi sur arrêté ministériel comme un site qui appartient au secteur où le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. 40 ans après aujourd'hui, le site est spolié. C'est plus de 500 familles qui sont chassées. On détruit tout, même les œuvres du droit agricole sont détruites. Nous cultivons les légumes que nous produisons pour Kinshasa. Nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit au Parlement, partout. Il n'y a pas une réponse positive. Nous demandons d'abord que nous soyons rétablis dans nos droits. C'est-à-dire que chaque maraîcher puisse travailler d'abord librement, sans la présence des militaires. Reprendre la fonction de nourrir Kinshasa dans chaque jour de la vie.
De quel militaire s'agit-il?
Il s'agit de la police militaire venant de Camp Kokolo.
Contacté ce mercredi par Radio Kapi, le ministre de l'Agriculture et Développement Rural reconnaît le dossier. Jean-Chrysostome Vahamwitsi affirme qu'il y a des dispositions légales en cours pour délocaliser tous ceux qui occuperaient le site maraîcher. Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.